Vous êtes avec SBS French.
Europa Voice numéro 156. Comme à l'accoutumée, je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
On va parler d'intelligence artificielle aujourd'hui dans la première partie de cette Europa Voice et nous parlerons de notre bonne vieille Madeleine de Proust. En deuxième partie, le Brexit et des certains regrets du côté britannique. Mais tout d'abord, on va parler donc de cette intelligence artificielle plutôt. Si c'était un IA qui faisait ce programme, il n'aurait pas fait cette erreur justement. Il y a un énorme sommet qui s'est passé à Paris, un sommet important. Il y avait du beau monde au Grand Palais à Paris. L'importance d'un sommet comme celui-là, et surtout les annonces qui ont été faites, 109 milliards d'euros investis par la France. Alors j'ai plein de questions par rapport à ces 109 milliards d'euros, mais parlez-nous un petit peu justement de l'importance d'avoir un congrès comme celui-là et de l'importance d'avoir une présence à la fois européenne et française dans le marché de l'intelligence artificielle.
Alors c'est intéressant parce que vous avez fait un petit lapsus, Christophe.
Ah.
Et donc c'est pas une intelligence artificielle, mais ça veut dire beaucoup aussi de ce que les citoyens ont retenu, parce que c'est 109 milliards effectivement d'investissement. Pas de la France, mais en France. Et c'est
important. Tout à fait. Mais c'est pour ça que je voulais en discuter, parce qu'en fait, dans les 109 milliards, il y a telle compagnie, tel pays qui investissent. Il y a l'Arabie Saoudite qui investit. C'est pas le gouvernement d'Emmanuel Macron qui investit, ce qui a fait un mini tollé pendant un petit moment en France.
Non, effectivement. Et c'est ça aussi qui est intéressant. C'est un vrai momentum encore européen slash mondial de la part d'Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, le fait aussi que l'Inde soit aux avant-premières de ce sommet sur l'intelligence artificielle dit beaucoup aussi de la relation indo-pacifique. C'est presque une manière de close the loop, hein, en anglais, entre le début du mandat d'Emmanuel Macron et la fin de son mandat, de réaffirmer ce partenariat stratégique avec l'Inde, avec la venue du premier ministre indien Narendra Modi. Mais effectivement, ces 109 milliards d'investissements de capitaux étrangers privés qui vont venir et qui vont être investis avec des fonds qui viennent de plein de pays, des Émirats arabes, vous l'avez mentionné, mais aussi du Canada et des États-Unis. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on l'a bien vu avec Vance pendant ce sommet sur l'intelligence artificielle, les États-Unis d'une certaine façon l'ont un peu boudé ce sommet. Vance n'a même pas assisté au discours d'Ursula von der Leyen, mais quand même.
Le vice-président,
pour nos auditeurs.
Mais ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'en fait, il y a, et ça, je pense qu'il faut qu'on en parle, il y a une troisième voie dans l'intelligence artificielle et l'Europe veut être cette troisième voie. Il y a la voie de l'intelligence artificielle d'État, qui est la voie chinoise. Il y a la voie ultra-commerciale, qui est la voie américaine. Et il y a sûrement un entre-deux, un en même temps, j'allais le dire, qui peut être trouvé par l'Europe, qui doit être trouvé par l'Europe.
Alors effectivement, il y a 200 milliards d'euros, Christophe, qui sont investis par l'Union européenne, notamment dans le développement de gigafactories, data centers. Principalement, quand on dit l'Union européenne, ça vient principalement du secteur privé. Il y a 150 milliards qui vont être financés par l'Alliance European AI Champion Initiative et 50 milliards par l'Union européenne elle-même. Mais effectivement, il y a de la part de l'Union européenne aussi ce sentiment de devoir... pas seulement réguler, en fait, l'intelligence artificielle. On en a beaucoup parlé d'EMA, DSA dans les épisodes précédents d'Europa Voice, mais il y a aussi la volonté de devenir une place attractive pour l'intelligence artificielle et pour tout le business et toute la création d'emplois et d'activités qui découlent de cette intelligence artificielle.
Et aussi de dire qu'il n'est pas trop tard. Le combat est loin d'être perdu ou gagné. Il est même presque loin d'être commencé, si on veut regarder un petit peu ce schéma-là. Aujourd'hui, les acteurs se placent. La grande bataille de l'intelligence artificielle, elle aura lieu sûrement à un moment ou à un autre. L'Europe a besoin d'avoir un siège à la table des discussions, des évolutions de l'intelligence artificielle.
Alors c'est un peu bateau, c'est un peu cliché, Christophe, mais data is the new gold.
Oui, tout à fait.
D'ailleurs,
on fait du data mining.
Voilà, du data mining. les données sont le nouvel Eldorado, que ce soit pour les entreprises privées, les États, etc. Et donc, d'une certaine façon, l'Europe joue aussi son rôle de mettre des limites, d'encadrer cet accès et ce traitement des données. Et d'ailleurs, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que dans l'alliance dont j'ai parlé il y a quelques minutes, il y a beaucoup de grands groupes européens. Il y a Airbus, et c'est intéressant parce qu'Airbus, c'est la réponse européenne à Boeing. Il y a CMA-CGM qu'on connaît bien ici en Australie qui détiennent ANL, mais CMA-CGM c'est aussi la réponse à d'autres grands transporteurs de frais américains, et il y a d'autres plus grandes, j'allais dire, entreprises et belles réalisations françaises et européennes comme Dassault, L'Oréal ou Orange. Donc en fait, l'Union européenne, et c'est là où c'est intéressant, c'est que pendant de nombreux mois, les entreprises privées ont vu d'un mauvais œil le traitement de l'intelligence artificielle par les instances de l'Union européenne. Et puis là, on a l'impression qu'il y a un shift en termes de narratif, et là c'est le communicant, c'est la casquette du communicant qui parle, il y a un shift en termes de narratif où c'est effectivement l'Europe qui a la manœuvre, mais derrière l'Europe qui a la manœuvre, ce sont les entreprises privées européennes, et il y a une espèce de patriotisme économique au niveau de l'Union européenne, c'est-à-dire à une échelle aussi qui est cohérente, pour justement faire face aux géants chinois et aux géants américains dont vous mentionnez les noms il y a quelques instants.
Et j'allais presque mettre le géant américain en aparté là-dessus, parce que je pense que quand on est un industriel ou qu'on est une entreprise ou un grand groupe européen, on se rend compte que bon, ok, la Chine nous aidera pas parce que la Chine c'est une politique qui est à la fois très chinoise et qui est très très étatique, mais que le marché américain il a été bouleversé avec l'arrivée de Donald Trump en plein de niveaux, et cet America First va gêner certains groupes dans leur investissement, dans la liberté d'avoir des fonds, la liberté d'avoir accès à de l'argent, qui donnera un problème pour les groupes européens et ce développement. Donc, il y a un moment, il faut aussi qu'ils regardent au bas de leur porte et que le meilleur allié qu'un groupe allemand, qu'un groupe français, qu'un groupe italien, qu'un groupe espagnol peut avoir aujourd'hui, il est forcément de facto européen.
Bah, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on a parlé de capitaux privés hors Europe, hein, les Émirats arabes, le Canada et les États-Unis. Mais quand on en vient à la signature d'un accord diplomatique, parce qu'il y a c'est ce qui a un petit peu terminé, qui a conclu ce sommet, cet accord diplomatique pour une intelligence artificielle, et là je cite hein, les termes officiels, ouverte, inclusive, éthique, on reste un peu sur ces, j'allais dire, sur ces termes théoriques, mais qui font qu'on donne un cadre législatif à un accord diplomatique, et ben cet accord diplomatique a été signé par une soixantaine de pays, et au rang des absents, alors on trouve le Royaume-Uni, ça on en reparlera peut-être.
On va en parler en deuxième partie.
Mais on trouve aussi les États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis se doivent d'être là, et en même temps, ils sont, mais parce que c'est cohérent avec ce que vous mentionnez avec Trump et l'isolationnisme américain, ils sont cohérents, donc ils vont participer, mais ils ne signent pas cet accord diplomatique, ils ne rentrent pas dans le jeu de la régulation de l'intelligence artificielle comme les Européens l'entendent.
Est-ce qu'il y a une place à prendre pour l'Europe dans le combat américain ? Je m'explique. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a deux grands acteurs de l'intelligence artificielle mondiale, mais également aux États-Unis. Alors, on met à part les Chinois, bien entendu, avec leur DeepSeek et les évolutions qui ont été faites. Aujourd'hui, on va regarder simplement les États-Unis. On a d'un côté OpenAI avec ChatGPT, et d'un autre côté, on a Elon Musk, qui, lui, a en gros une mainmise sur une partie du gouvernement américain aussi. Ce combat, entre guillemets, des chefs, aujourd'hui, est-ce qu'il peut jouer en la faveur d'un groupe européen, d'un investissement européen, d'un investisseur européen? Je ne parle pas forcément de Mistral, qui sont les Français, de ce côté-là, mais est-ce qu'il y a une opportunité là, si on les laisse, les deux grands géants, OpenAI et X pour Elon Musk, XAI, se battre entre eux, se faire leur bataille à la fois légale, sur les tribunaux, perdre du temps dans ce développement-là?
Mais c'est intéressant, Christophe, parce que j'allais justement mentionner Mistral.
Le chat de Mistral.
Voilà, mais parce que Mistral a aussi été beaucoup mis en valeur parce que la France a organisé ce sommet, parce que c'est une pépite française, etc. Mais en fait, le fait de parler de Mistral, ça montre aussi l'enjeu justement pour l'Union européenne, qui est non pas d'avoir un acteur national, mais d'avoir un acteur européen. Donc ça, c'est le premier élément. C'est est-ce que demain, on sera capable d'avoir un acteur extra-national, européen d'intelligence artificielle. Et le deuxième point, effectivement, je crois que l'Europe, pour l'instant, a tout intérêt à être assez attentiste dans ce combat des chefs / combat des égos qui est en train de se passer aux États-Unis, parce qu'on n'est absolument pas à l'abri de réactions complètement surdimensionnées d'un côté ou de l'autre. D'Elon Musk, par exemple.
Surtout d'un côté. D'un côté ou l'autre, mais donc, surtout d'un côté quand même.
Donc, c'est pas aux Européens de se mêler et de faire de l'ingérence dans ce qui se passe aux États-Unis, mais en tout cas, il est évident que les Européens ont tout intérêt à faire émerger, justement, cet acteur européen de l'intelligence artificielle, à faire émerger un cadre contraignant, a attiré aussi des capitaux. On l'a mentionné dans un des derniers épisodes d'Europe Power Voice. Il y a une grande partie de l'épargne et de l'investissement qui devrait rester en Europe et qui, pour l'instant, part de l'Europe. Donc, il y a aussi, via ce conduit qu'est l'intelligence artificielle, la volonté des Européens de faire que les entreprises européennes, les épargnes européennes, continuent à être investies en Europe pour développer ces acteurs. Et puis, encore une fois, je parlais du rôle prépondérant de l'Inde. Le prochain sommet de l'intelligence artificielle sera organisé en Inde. Et donc ça raconte aussi beaucoup justement dans ce jeu d'alliance, États-Unis d'un côté, Chine de l'autre, et puis une espèce de partenariat entre les deux autres grandes puissances, rien qu'en termes démographiques, le milliard et les 550 millions à peu près de l'Union européenne.
Mais c'est intéressant qu'on parle de l'Inde, parce que l'Inde pendant longtemps a été le cerveau de développement d'énormément de logiciels, le cerveau de tout ce qui se passait de l'après-vente des logiciels. Ça a été vraiment un des acteurs clés. Aujourd'hui, l'Inde n'a pas envie de perdre sa place de leader ou d'un des leaders mondiaux de l'informatique, du développement et de développement logiciel. Donc ils ont un énorme défi devant eux aussi, les Indiens, parce qu'ils peuvent très vite devenir obsolètes. Leur développement technologique pourrait très vite devenir obsolète s'ils ne font pas partie des groupes. Et clairement, ils ne peuvent pas faire partie du groupe d'État chinois et ils ne peuvent pas faire partie du groupe américain. Donc aujourd'hui, c'est presque un partenariat naturel qui existe avec l'Inde, et il y a presque que l'Europe qui peut leur offrir ce partenariat.
Oui, c'est un peu encore une fois, je pense qu'il faut prendre cette séquence sur l'intelligence artificielle comme la continuité, comme le continuum de ce qu'Emmanuel Macron a impulsé dès 2017 avec
l'axe Indo-Pacifique.
L'axe Indo-Pacifique, tout à fait. Et ça, encore une fois, c'est peut-être passé un peu trop inaperçu en France, mais c'est véritablement clé. C'est comment est-ce qu'on trouve des nouvelles routes de la soie, alors pour plein d'autres domaines, hein, pas que la soie, mais comment on trouve ces nouvelles routes de la soie en ayant la possibilité de contourner justement la Chine. Et donc, effectivement, c'est un partenariat gagnant-gagnant. C'est un partenariat gagnant pour l'Union européenne d'avoir un autre acteur de dimension mondiale. Encore une fois, il faut parler démographie, il faut parler marché. Le marché indien est cohérent en termes de démographie, en termes de développement. Mais c'est aussi un partenariat gagnant-gagnant pour l'Inde de pouvoir s'appuyer sur les ressources, les technologies, les recherches et quand même la puissance de l'Union européenne. Et puis, pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron, il y a un peu l'idée du plug, baby plug, hein, en réponse à Donald Trump, de branche ou branche continue de brancher bébé. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va aller encore plus loin dans justement l'intelligence artificielle. Et encore une fois, l'intelligence artificielle, souvent, c'est un mot un peu valise, mais de là découle beaucoup de choses. Et par exemple, juste pour mentionner, et on peut finir avec ça, mais pour mentionner un secteur, le secteur justement de l'énergie va être primordial pour l'Union européenne. On sait que c'est un secteur où l'Union européenne investit beaucoup. C'est un secteur d'avenir. On le voit ici, hein, en Australie, notamment dans le Victoria, avec le nombre d'entreprises françaises et européennes et leur savoir-faire qui viennent ici et qui exportent leur technologie en Australie. Donc l'intelligence artificielle, elle va être mise au service. Elle ne va pas être prise comme une finalité en soi, mais elle va être mise au service des secteurs clés et stratégiques dont l'énergie, par exemple, fait partie pour l'Union européenne.
Quelque chose me dit que tout ça, ça va devenir peut-être notre nouvelle Madeleine de Proust. Ça peut être intéressant sur les mois à venir à Europa Voice. Voilà, on fait une courte pause. On se retrouve dans la deuxième partie d'Europa Voice. Nous parlerons, bien entendu, du Brexit comme annoncé au tout début de cet épisode, tout de suite après ça.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Deuxième partie donc d'Europa Voice avec notre analyste Nathanaël Bloch. Alors, reparlons maintenant du Brexit. Ça fait un moment qu'on n'avait pas parlé de ce Brexit. Énormément de choses se sont passées et à la fois, pas grand-chose. La Grande-Bretagne est donc sorti de l'Union européenne. Tout le monde connaît cette histoire. Il semblerait qu'il y ait quand même quelques regrets de l'autre côté de la Manche.
Alors, 5 ans. Déjà, joyeux anniversaire.
Ouais, déjà, merci. 5 ans déjà.
Ça fait 5 ans que ça nous donne du grain à moudre ici à Europa Voice.
Ça nous a donné des idées au départ et c'est vrai qu'on est encore en train d'en parler 5 ans après. C'est vrai.
Parce que c'est un autre Madeleine de Proust. Et puis, c'est aussi.
Mais pour de bonnes raisons.
Pour de très bonnes raisons. Et puis aussi, c'est la politique en marche. C'est-à-dire que. Il y a un côté tâtonnement, c'est-à-dire que quand ce Brexit a été...
On s'est aperçu que les politiciens ne savaient pas tout.
Mais il savait pas tout, surtout il savait pas forcément anticiper. Et puis après, c'était un peu trop tard. Non, mais pour être plus sérieux, en fait, il y a effectivement un sondage YouGov qui est paru il y a quelques jours au Royaume-Uni. Et il y a plus d'un Britannique sur deux, j'insiste, plus d'un Britannique sur deux, près de 55%.
Donc, une majorité.
Oui, là, voilà. Qui estime que quitter l'Union européenne lors du Brexit était, et là je cite hein, les termes de ce sondage, alors je le traduis de l'anglais en français, mais était une erreur. Mmh. Il y a plus d'un Britannique sur deux, c'est incroyable après ça, plus d'un Britannique sur deux qui estime que le Brexit et quitter l'Union européenne était une erreur 5 ans après.
Mais est-ce que, en connaissant bien, voire très bien les Anglais, il y a le fait d'admettre que c'était une erreur. Il y a aussi, par contre, on parle pas de revenir en arrière. On parle pas de rejoindre l'Union européenne. En tout cas, pas tout de suite. C'est pas au cœur du débat. Aujourd'hui, on peut avoir des regrets. Il y a ce certain flegme britannique qui dit, OK, peut-être on a eu tort. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on a et on fait avec ce qu'on a. Il n'y a pas une discussion aujourd'hui vers un retour de l'Union, au sein de l'Union européenne.
Un petit sentiment de fierté, Christophe, peut-être?
Ouais, on va dire que je bouge les épaules d'une certaine autre façon, oui, c'est clair.
Non, mais effectivement, il y a une espèce d'entre-deux, hein, d'en même temps, on adore ce terme ici, qu'on reprend à souhait au président Emmanuel Macron, mais il y a effectivement, admettre que ça a été une erreur, il n'y a pas le souhait de revenir dans l'Union européenne, alors
il n'y a pas le souhait explicité. Hein. Le souhait, il est peut-être déjà
voilà,
là,
mais
il y a un certain flingue qui fait qu'on ne va pas admettre l'erreur jusqu'au bout. Hein.
Non, mais il y a un entre-deux qui est de garder des liens avec l'Union européenne et peut-être de solidifier ces liens avec l'Union européenne.
Mais est-ce que c'est parce que les Brexiteurs voulaient, de toute façon, garder certains liens avec l'Europe? Il n'y avait jamais eu... Bon, il y a eu des hardcore qui étaient vraiment, faut tout couper, on va ouvrir de nouvelles voies, de nouvelles routes de la soie, comme vous l'avez dit. Mais le gros du public... en général, pensaient que les Britanniques pourraient garder un certain lien avec l'Europe, qui pourraient choisir sur quelle telle ou telle partie de la négociation européenne ils pouvaient jouer, impacter ou pas.
Je pense qu'il y a deux éléments à ça, Christophe. Il y a d'abord le fait qu'à mon avis, les dirigeants britanniques de l'époque, et je n'incrimine personne, hein, les différents leaders britanniques qui sont...
Allez-y, j'ai une liste.
à mon avis, aucun d'entre eux n'a à la fois anticipé deux choses. Aucun d'entre eux n'a anticipé, à mon avis, la globalité des conséquences de ce Brexit. Ça, c'est la première chose. Mais encore une fois, c'était la première fois que ça arrivait. Donc, c'était même si on pensait à certaines pistes, c'était difficile d'anticiper les conséquences. Donc, je pense que les leaders britanniques ont un peu sous-estimé la gravité des conséquences. Et je pense aussi que les leaders britanniques, à l'époque, n'ont pas anticipé, finalement, le respect par les Européens du choix souverain britannique. C'est-à-dire que les Européens, finalement... Non pas qu'ils ont, et crédite tout Michel Barnier, non pas qu'ils ont lâché le Royaume-Uni à l'époque, mais ils ont tout simplement dit...
Appliquez leur décision.
Appliquons maintenant votre décision. Ils n'ont pas tenu les Britanniques par la manche en disant il faut absolument que tu restes. Mmh. Et ça, je pense qu'aussi, les dirigeants britanniques...
Ça a dû piquer un peu quand même.
Bah oui, je pense que les dirigeants britanniques n'ont aussi pas totalement anticipé le fait qu'on n'allait pas les retenir ad vitam aeternam. Et donc maintenant, effectivement, on est dans une situation où, toujours d'après ce sondage YouGov, il y a plus de 2/3 des interrogés qui sont en faveur, alors il faut le définir après, mais qui sont en faveur de rapports étroits avec l'Union européenne sans toutefois rejoindre l'Union. Et il y a un petit peu moins de 2/3 de ces personnes interrogées qui pensent que le Royaume-Uni ne devrait pas relâcher ses liens avec l'Union européenne. Donc il y a encore cette volonté quand même, sans vraiment le dire, d'avoir des liens privilégiés. Est-ce que ces liens privilégiés, ça veut dire... en termes tarifaires, est-ce que ça veut dire en termes de déplacement de personnes? Mais en tout cas, voilà, il y a un regret quand même, Christophe, 5 ans après.
Ce qui est intéressant dans tout ça, il y a des modèles qui fonctionnent avec l'Europe comme ça. Il y a le modèle suisse, par exemple, qui fonctionne. La Suisse qui n'est pas au sein de l'Union européenne, mais qui a une relation plus que privilégiée avec tous les pays de l'Union européenne. Et aussi, surtout, il y a une attitude européenne qui n'est pas revancharde. Je ne pense pas qu'au niveau de Bruxelles ou Strasbourg, on soit en train de se dire on va leur donner une leçon assez britannique. On va forcément, du côté européen, on va essayer de faire fonctionner tout ça. C'est dans l'intérêt, on en parle beaucoup ici, encore une fois, on fait le retour sur beaucoup de citations, mais c'est du win-win pour tout le monde. Et l'Europe, il voit aussi son win-win là-dedans. On n'est pas là en donneur de leçons. L'Europe n'est pas là en donneuse de leçons.
Non, l'Europe n'est pas là, Christophe, en donneuse de leçons, mais l'Europe considère maintenant ses relations bilatérales avec le Royaume-Uni, on va dire presque comme n'importe quelle relation.
Comme le Canada, comme l'Australie. Hein.
Exactement.
Il y a des accords de libre-échange qui sont discutés avec ces pays-là.
On en est au 15e rang, vous mentionnez l'Australie, ici à SBS Europa Voice, on en est au 15e rang, je crois, de négociations pour arriver à ces accords bilatéraux, ces accords commerciaux, de ce qu'on appelle de free trade agreement en anglais, entre l'Union européenne et l'Australie. Et il n'y a pas de honte à le dire, mais ça prend en compte n'importe quel petit détail, quelle appellation, parce qu'une fois que l'accord est signé, bah effectivement, on n'a pas envie qu'une partie inonde l'autre partie, l'autre marché, avec un produit qui est de la concurrence de l'Europe, etc. Donc en fait, il n'y a pas de revanche de la part de l'Europe, mais il y a une réalité qui est que maintenant, elle va traiter, ou elle devrait théoriquement traiter avec le Royaume-Uni, comme avec n'importe quel autre ensemble étatique, géopolitique, s'il faut signer des partenariats, des accords de libre-échange, etc. Et puis, en fait, pour les Britanniques, j'allais dire, si on prend les différents secteurs, c'est pas tellement le secteur financier qui a souffert, même s'il y a eu beaucoup de départs de la City vers d'autres places financières, à Francfort ou à Londres notamment.
C'est les secteurs qui étaient déjà très affectés, comme
l'agriculture, par exemple.
La pêche, c'est
ces secteurs qui étaient déjà problématiques, sous tension. Où il y avait déjà...
Et donc du coup, à l'époque, on voyait, et là c'est vrai qu'on peut aussi en être fier, mais à l'époque, on voyait l'Europe comme la source des problèmes. Mais aujourd'hui, les Britanniques, ils se rendent peut-être compte que la source des problèmes, elle n'était pas que européenne. Aujourd'hui, les pêcheurs, aujourd'hui les agriculteurs qui critiquaient énormément la politique agricole commune, aujourd'hui, peut-être, ils se rendent compte qu'ils en bénéficiaient aussi de la politique agricole commune.
Évidemment, alors peut-être moins que dans d'autres pays comme l'Espagne
ou la France.
mais effectivement, le Royaume-Uni bénéficiait des mêmes... largesse, appelons-les ainsi, que n'importe quel pays membre de l'Union européenne. Donc voilà, encore une fois, les secteurs qui étaient déjà problématiques, où ça gueulait déjà d'une certaine façon, ouais. Christophe, ben, le gap est encore, le fossé est encore plus grand. Et l'agriculture, notamment, la pêche, en est un.
Ouais. Et juste pour conclure, ça veut dire quoi sur le plan politique en Grande-Bretagne, parce que il y a eu une scission avec les extrêmes. Nigel Farage, qui est grand instigateur de tout ça, n'est plus vraiment dans l'échiquier politique. Il y a eu énormément de gens qui ne sont plus dans l'échiquier politique aujourd'hui. Ça laisse un certain héritage à des nouveaux politiciens, j'allais dire, en Grande-Bretagne. Ça veut dire quoi aujourd'hui sur cet échiquier britannique?
Bah déjà, ça veut dire effectivement que les personnes aux responsabilités en Grande-Bretagne finalement doivent faire le service après-vente du Brexit, et je pense notamment à Keir Starmer, qui lui doit gérer cette situation-là.
Au final, c'est lui qui gère avec tout ça, hein.
C'est lui qui gère avec tout ça avant, hein. Et c'est aussi lui qui doit gérer, j'allais dire, par rapport aux problématiques nationales pour son parti, pour les travaillistes, les nouveaux travaillistes d'une certaine façon. Pour moi, il y a un côté un peu Blair dans les défis auxquels Starmer est confronté. Et l'Union européenne, en fait, pour moi, fait partie d'une partie des défis pour le dirigeant travailliste britannique. Maintenant, encore une fois, la question, elle n'est pas pour lui de rejoindre de nouveau l'Union européenne, mais la question, elle est de savoir comment, de la même manière que certains leaders britanniques ont pris la décision de mettre la sortie de l'Union européenne sur la table, lui, comment il va mettre sur la table la possibilité pour la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, de ressouder, retisser les liens avec l'Union européenne. Et puis, signalons-le, parce que c'est quand même important, rien n'oblige. De l'autre côté, les Européens, et soyons francs, c'est pas du tout une priorité du second mandat de von der Leyen, la relation avec le Royaume-Uni. C'est un dossier à expédier ou à traiter comme d'autres. Donc, j'allais dire, l'Union européenne est plutôt dans une situation confortable et elle analysera au cas par cas les propositions qui sont faites par le Royaume-Uni sur cette question-là.
Ce qui nous donne l'opportunité d'en reparler maintes et maintes et maintes et maintes fois dans Europa Voice. Merci Nathanaël.
Merci Christophe.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.